principe actif.
Ça peut arriver de faire une fixette à un moment donné sans pour autant savoir pourquoi. Tu t'abandonnes totalement à l'univers tout puissant et tu te laisses dériver avec le courant.
102.4 FM.
Delicious, sugar-free, a little vicious, always. Listen up close, Liz, I mean. Dropping hip-hop knowledge to rock your body. Take the dope science of the MIC, the grandmaster funk to funk your body. Kid, nobody dug me, I wasn't cool. Even my mama used to call me a fool. Always by my own, crushing all the rules. Trying to top rock at the swimming pool. It goes one for the rhythm, two for the hoes. Here's my funky rhyme, straight up, you know. I'm a nerd, a real hip-hop freak. Yeah, my clothes look cheap. I'm a nerd, a real hip-hop geek. Word, I ain't got no Jeep. I'm a nerd, a real hip-hop freak. Word, yeah, my clothes look cheap. I'm a nerd, a real hip-hop geek. Word, I ain't got no Jeep.
Never won the game, never played no man. So always by my own in the back of the class. Everybody always laughs.
Il est tout juste 5h à Rabat, 6h à Paris. Vous écoutez Radio France Internationale. Avec Gaëtan Plenet pour le retour du journal. Bonjour Gaëtan.
Bonjour Edouard, bonjour à tous.
France-Maroc ce soir, comme en demi-finale du Mondial 2022.
Sauf que cette fois, on en est au quart. Et les Marocains espèrent que le résultat ne sera pas le même que la dernière fois. Comprenez, ils veulent gagner. Et c'est aussi, évidemment, ce qu'espèrent leurs supporters. On est à Casablanca dès le début de cette édition. On va parler de cette nouvelle nuit de frappe entre l'Iran et les États-Unis, alors que 6000 marins sont toujours bloqués dans le golfe Persique, attendant de traverser le détroit d'Ormuz. Le sommet de l'OTAN qui s'est achevé hier à Ankara avec cette annonce de Donald Trump, les Ukrainiens vont pouvoir fabriquer eux-mêmes les missiles Patriot dont ils ont tant besoin pour faire face à la Russie. Et puis on parlera aussi de la canicule qui frappe à nouveau la France et une partie de l'Europe. Y aura-t-il encore une équipe africaine dans le dernier carré de la Coupe du Monde masculine de football? Ce n'est arrivé qu'une seule fois et c'était lors de la précédente édition. En 2022, le Maroc avait marqué l'histoire avant d'être éliminé par la France. Eh bien, les Marocains peuvent une fois de plus se qualifier pour les demi, mais pour ça, il faudra battre ce soir. Tiens, tiens, la France, justement, malédiction ou occasion de revanche, c'est selon. En tout cas, les Lions de l'Atlas sont les derniers représentants africains encore en lice et ils peuvent compter sur le soutien de leur diaspora. Rentrer dans le royaume pour l'occasion et pour vibrer à domicile. Une victoire marocaine ou rien, quoique certains seront contents quoi qu'il arrive. Reportage à Casablanca de Mathias Reynal.
Tu préfères lequel, celui-ci du coup?
C'est le passage obligé. Après avoir atterri, déposé les bagages, on va acheter son maillot au marché de la Médina et pas n'importe lequel.
Le maillot du Maroc. Bien sûr, je vais pas aller devant ma famille avec le maillot de la France alors qu'on est au Maroc. Ils vont me prendre pour un imposteur.
Saïdan a dû s'adapter. Saïdan, c'est l'aîné des Harad, une famille franco-marocaine venue de Toulouse. Samantha, la maman.
La diaspora marocaine est très attachée à ses origines et nos enfants également. On leur a demandé s'ils préféraient aller ailleurs pour ses vacances d'été, pour une fois, et ils ont tous répondu à l'unisson dans le Maroc.
Et depuis que les Harad sont dans le royaume, c'est l'euphorie. Les Marocains enchaînent les victoires. Samantha exhibe fièrement son téléphone et la vidéo qu'elle a filmée le soir de la qualification en quart de finale.
On a fait un petit montage pour avoir un souvenir et pour partager aussi l'émotion qu'on a vécue. C'était incroyable. On en veut encore. Il faut aller la gagner celle-là pour encore fêter et encore rêver.
Mais en réalité, quoi qu'il arrive...
On ne peut pas être perdant. On est quand même derrière le Maroc et on aime aussi la France. Donc...
Là, on est sur un match vraiment frère avec une énorme notion de respect, de fraternité et d'union. Et finalement, peu importe l'issue de ce match.
Difficile de ne pas se laisser emporter par l'atmosphère qui règne au Maroc depuis le début de la Coupe du Monde. Ça fait un mois que le pays vit pour le football et sa sélection. Mathias Reynal, Casablanca. RFI.
France-Maroc, ce sera à partir de 20h en temps universel à suivre en direct sur nos antennes africaines. Et coup dur pour l'équipe marocaine, son meilleur buteur dans cette édition, Ismaël Saïbari, ne sera pas sur la pelouse. Ce soir, l'attaquant était sorti sur blessure lors du 8e de finale contre le Canada. Une nouvelle nuit de frappe dans le Golfe. Les gardiens de la révolution iranien revendiquent, comme la veille, des attaques contre des bases américaines au Koweït et à Bahreïn. Quelques heures plus tôt, ce sont les États-Unis qui avaient visé plusieurs villes portuaires de la République islamique, Bandar Abbas, Konarak ou encore Chabahar, 90 cibles au total. Et le président américain Donald Trump, qui hier avait estimé que le cessez-le-feu entre les deux pays n'était plus d'actualité, a menacé de frappes bien pires encore si des navires étaient une fois de plus pris pour cible dans le détroit d'Ormuz. Ça a été le cas notamment mardi des frappes attribuées à l'Iran par cette même armée américaine. Et cette nouvelle tension et cette nouvelle flambée de tension, elle ralentit encore un petit peu plus le passage dans ce détroit stratégique. C'est là que transite, ou plutôt transitait avant la guerre, près de 20% du pétrole mondial. Et ça inquiète l'Organisation Maritime Internationale, car au-delà des conséquences économiques dues aux difficultés d'acheminement du pétrole, il y a aussi le sort de ceux qui étaient justement chargés de l'acheminer. Il serait encore 6000 marins bloqués sur leur navire dans le golfe Persique et attendant de pouvoir franchir le détroit d'Ormuz. Pierre-Olivier.
Le secrétaire général de l'Organisation Maritime Internationale l'assure, ces nouvelles attaques ne font qu'exacerber la peur et la détresse psychologique que subissent déjà les 6000 marins bloqués dans le golfe Persique. Même si, bien sûr, la majorité d'entre eux n'attend pas de pouvoir franchir le détroit d'Ormuz depuis le début du conflit. Emmanuel Chalard, secrétaire général CGT des officiers de la marine marchande.
Ça fait pas 6000 marins bloqués depuis 4 mois. En gros, on va dire que quand même la majorité des marins sur zone ont été, il y a eu des relèves d'équipage et des collègues les ont remplacés. Donc ceux qui sont bloqués depuis le début du conflit sont des marins qui sont embarqués sous des pavillons de libre immatriculation et leurs armateurs sont finalement plus des traders que des armateurs.
Avec les reprises des tensions autour du détroit d'Ormuz, le syndicaliste s'inquiète aussi des conditions de navigation des marins.
Ce qu'on craint, c'est une banalisation des activités commerciales en zone de guerre. Encore une fois, les marins sont des marins civils, on n'est pas des militaires et on ne voudrait pas que le pli soit pris, qu'on navigue dans ce genre de conditions.
L'Organisation Maritime Internationale rappelle de son côté que la sécurité des navires et des marins n'est une nouvelle fois plus garantie dans la zone.
Une précision de Pierre-Olivier. Et ce regain de tension, il intervient alors que l'Iran s'apprête à inhumer l'ayatollah Ali Khamenei, tué au premier jour de la guerre dans des frappes israélo-américaines. Après 6 jours de cérémonie, sa dépouille sera enterrée tout à l'heure à Mashhad, sa ville d'origine dans le nord du pays. Les autorités locales disent attendre 15 millions de personnes. Israël, coupable de possibles crimes de guerre, dit Amnesty International, qui s'est intéressé aux frappes israéliennes dans le sud du Liban, quasi quotidiennes depuis des mois maintenant. Et 3 de ces frappes, menées au mois de mars, sont effectivement susceptibles de constituer des crimes de guerre, selon l'ONG, qui parle d'une 20aine de morts, dont des enfants. Elle déplore un mépris flagrant pour la vie des civils et réclame des enquêtes. Israël qui a aussi frappé Gaza hier, selon la défense civile de l'enclave. Cette dernière parle de 9 personnes tuées dans plusieurs zones du territoire, et ce malgré le cessez-le-feu entre l'État hébreu et le Hamas qui est encore censé être en vigueur. RFI, il est 7h06 à Ankara, la capitale turque, où s'est achevé hier le sommet de l'OTAN. Et la principale annonce, elle est venue de Donald Trump. Il va autoriser l'Ukraine à fabriquer elle-même des missiles patriotes, des missiles américains. Mais nous allons vous donner une licence, a dit le président à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, qui était justement venu réclamer à ses alliés une augmentation de leur livraison de ces missiles, qui sont indispensables pour intercepter ce balistique envoyé par la Russie. Là, l'Ukraine pourrait donc les produire sur son sol, en théorie en tout cas, car conscient des habituels revirements de Donald Trump, les eurodéputés préfèrent rester prudents. Sofia Katsenkova.
L'annonce de Donald Trump est vue comme un signal positif à Strasbourg, mais pas forcément comme une garantie. Thomas Pellerin-Carlin, député du groupe socialiste et démocrate, reste sur ses gardes.
Il faut être stupide pour faire confiance à Donald Trump. Depuis qu'il a compris que l'Ukraine était en train de gagner de la guerre, Trump a changé au moins une partie de son discours. On le note, mais personne ne doit faire confiance à Donald Trump. Donc ce discours-là, il est intéressant et on va voir si ça se traduit en actes.
Un doute que ne partage pas entièrement Bernard Guetta, l'eurodéputé du groupe centre libéral Renew, veut lui croire à un vrai basculement américain en faveur de Kiev.
C'est dit et il y a de grandes chances que ça se réalise parce qu'il y a un revirement de la Maison-Blanche et ce revirement est capital avec un seul bémol. On ne produit pas des missiles patriotes du jour au lendemain.
Reste une question plus large, celle de la dépendance aux États-Unis. Le député polonais de droite Reinis Poznacz estime que les Européens doivent en tirer les conséquences.
We don't have any other options. Je pense que nous n'avons pas d'autre choix que de faire confiance à Donald Trump. D'une manière générale, l'Europe doit s'engager sur la voie de la souveraineté en matière de défense et de sécurité pour que nous n'ayons plus à nous demander à qui nous pouvons ou ne pouvons pas faire confiance.
L'annonce est saluée, mais sans grandes illusions de la part des députés au Parlement européen. Sofia Katsenkova, Strasbourg, RFI.
Et dans la déclaration finale du sommet de l'OTAN, les 32 pays membres disent affirmer leur soutien indéfectible à l'Ukraine, qui, je cite, contribue à la sécurité transatlantique. Réaction de la Russie ce matin, elle dénonce des engagements irresponsables et accuse les États européens de se préparer à un conflit armé avec Moscou. La Russie, dont le ministre des Affaires étrangères était à Niamey hier au Niger. Dans le cadre de sa tournée africaine, Sergueï Lavrov s'est réuni avec ses homologues des pays de l'AES, qu'il a officiellement invité au troisième sommet Russie-Afrique, prévu en octobre prochain dans la capitale russe. Ensemble, ils ont acté leur volonté de poursuivre leur coopération, qu'elle soit sécuritaire ou diplomatique. Jamais un mois de juin n'avait été aussi chaud en Europe occidentale. C'est l'observatoire climatique Copernicus qui le dit ce matin, alors même qu'une nouvelle vague de canicule est en train de frapper le continent, la France notamment, 67 départements en vigilance orange et un mercure qui frôlera les 40 degrés par endroit cet après-midi. Voilà qui ne devrait pas rassurer les agriculteurs français, alors que le constat est déjà douloureux, avec notamment près de 3 millions de volailles perdues en quelques jours le mois dernier pendant les précédentes vagues de chaleur. Et forcément, ça risque de ne pas s'arranger, Nicolas Pichon-Levenbeuck.
Sécheresse éclair, pluie torrentielle, ces événements climatiques extrêmes qui mettent en péril la filière agricole vont se multiplier sous l'effet du réchauffement climatique, explique Inaki Garcia de Cortaza Atori, agronome et directeur de recherche à l'INRAE.
À l'horizon 5-10 ans, ces types d'événements vont devenir de plus en plus la norme. Et donc, si nous ne faisons pas d'adaptation, on va avoir des problèmes en fait au niveau des arrêts de croissance des végétaux, par exemple. La qualité à la récolte, elle va être dégradée, voire la production en général. On va se retrouver, c'est que d'un certain moment, on va avoir des situations de tension. Une baisse de la capacité de production d'une filière en particulier, donc certains prix peuvent augmenter de façon conséquente. Oui.
L'impact du réchauffement climatique, ça n'est pas que des événements extrêmes, mais aussi une tendance de fond à laquelle il faut s'adapter, insiste l'agronome.
En fait, on va explorer beaucoup de leviers, des rotations différentes, une diversification, plus d'espèces qui vont permettre de diluer les risques. On va changer les cycles des cultures, tout un travail aussi au niveau du sol pour que ça puisse retenir l'eau pendant plus longtemps.
L'enjeu aujourd'hui pour le chercheur, c'est de réussir à élargir ses pratiques le plus possible pour que les agriculteurs puissent continuer à produire malgré le réchauffement climatique.
Nicolas Pichon-Levenbruck. Le nombre de cancers dans le monde devrait presque doubler à l'horizon 2050. C'est l'alerte lancée par l'Organisation mondiale de la santé qui, dans ses dernières estimations, nous dit qu'une personne sur cinq devrait être confrontée à la maladie au cours de sa vie. Et comme souvent, quand on parle de santé, il y a des disparités géographiques, Jérémy Lanche.
En 2024, dernière année pour laquelle des chiffres sont disponibles, plus de 20 millions de personnes ont développé un cancer. Elle pourrait être 35 millions en 2050. Le taux d'incidence est disproportionnellement élevé en Europe par rapport à sa population. Mais c'est en Afrique que le taux de mortalité est le plus élevé, dit la docteure Isabelle Sorjomataram de l'OMS.
En Afrique subsaharienne, 50 à 90% des femmes avec un cancer du sein ont été diagnostiqués au stade 3 ou 4 de la maladie, c'est-à-dire à un stade avancé. En Amérique du Nord, cela concerne 30% seulement des femmes.
Le rapport insiste aussi beaucoup sur l'impact psychologique que peut avoir un diagnostic, l'isolement, le sentiment de détresse. Et ça ne concerne pas que les malades, explique le docteur André Ilbaoui. Il dirige le programme de lutte contre le cancer à l'OMS.
Ce qu'il faut retenir, c'est que 92% des personnes vont être confrontées au cancer, le sien, celui d'un parent, d'un conjoint, d'un frère, d'une sœur ou d'un enfant. Certains aidants passent plus de 40 heures par semaine à s'occuper de leurs proches, en plus de leur travail. C'est un job à plein temps.
4 cancers sur 10 sont liés à des causes évitables, comme les infections, la consommation d'alcool ou de tabac. Celle-ci, c'est un des rares signes positifs et d'ailleurs en baisse dans le monde. Mais l'OMS s'inquiète en parallèle de voir l'obésité devenir un facteur de plus en plus déterminant dans le développement des cancers. Jérémy Lanche, Genève, RFI.
Allez, plus légèrement, parce qu'on en a besoin quand même, un petit mot de cyclisme. 6e étape du Tour de France ce jeudi. Un petit peu plus de 186 km dans les cols pyrénéens entre Pau et Gaverny-Gèdre. On aura l'occasion d'en parler dans nos différents journaux des sports ce matin.
Gaëtan Plenet.
À le retour de l'actualité africaine dans un gros quart d'heure. D'ici là, on va parler de la criminalité organisée en Inde après des arrestations ces derniers jours dans plusieurs pays. On va retourner au Festival d'Avignon pour y retrouver notre invité culture du jour, le metteur en scène égyptien Ahmed El Attar, qui signe la pièce Salma, mon amour. Et puis, si vous en souffrez, sachez que vous n'êtes pas les seuls, loin de là. Ça ne soulage pas, mais peut-être que ça console un tout petit peu. On va parler du mal de dos. Ce sera dans notre conseil santé du jour. Mais d'abord, on part en Norvège sur ce qui fut autrefois un volcan et qui est aujourd'hui le plus grand gisement de terres rares d'Europe. Les terres rares, ce sont ces métaux indispensables à la fabrication des voitures électriques, des éoliennes, des smartphones ou encore de divers équipements militaires. Bref, c'est un petit peu, c'est peu dire qu'ils sont très recherchés et l'Europe ne dirait pas non, alors que le secteur est aujourd'hui largement dominé par la Chine. C'est la compagnie minière norvégienne Rare Earth Norway qui a obtenu le permis d'extraction sur ce site du sud de la Norvège, où nous emmène notre correspondante régionale, Ottilia Ferré.
Torres Penn-Simonsen est au volant de sa vieille Volvo couleur moutarde des années 80. Le responsable de la communication de Rare Earth Norway sur le terrain sillonne les collines et forêts du sud de la Norvège. Direction Fensfeltet, le gisement où repose peut-être l'un des plus grands trésors miniers d'Europe.
Nous sommes à l'intérieur du volcan, dans la zone où l'activité volcanique a commencé il y a 580 millions d'années. Sous les roues de cette vieille Volvo 240 se trouve le plus grand gisement de terres rares d'Europe. Ça représente le grand espoir du continent, à la fois pour réussir la transition écologique et pour garantir un avenir plus sûr où nous ne dépendrons plus d'un seul pays.
This is England!
rayons gamma sont des radiations émises par des corps radioactifs et ils sont analogues aux rayons X.
Excellente réponse, Kelly. Quant à ceux qui ont répondu qu'il fallait beaucoup écouter la radio pour devenir radioactif, ils sont à côté de la plaque.
Vous écoutez Principe Actif à Évreux 102.4, dans le sud de l'Eure 95.9 et partout ailleurs sur principeactif.net. Principe Actif, le mix des cultures.